La Lozère a été rebaptisée Mordor il y a quelques années par l'un des trésoriers de l'association Mordorfest. À son retour d'un de ses nombreux périples à travers la pampa française, l'humeur maussade, l'œil vif et la fleur de pays vissée au coin du bec, il traverse les reliefs lozériens, faisant face à un paysage sauvage, hivernal et menaçant, sous la faible lueur du crépuscule et son seul phare, il s'exclama alors « Putain, fut dans le Mordor !» La cigarette oubliée avait collé. Ainsi naquit le Mordor. Ce message est perpétué depuis de longues années au sein de l'association. L'auteur est inconnu, il semblerait qu'il fût découvert dans une canette de 8-6 échouée aux berges du Lot. C'était donc ça, la naissance de la légende du Mordor en Lozère, et de l'association Mordorfest. C'est pour cette raison que le 11 et 12 août sur l'Aubrac, à la cascade du Déroc, à Nasbinal, se tenait la 5e édition du Mordorfest, une grande bataille qui a lieu chaque année regroupant de grands guerriers venus du monde entier pour combattre et pour tenter de reconquérir les terres du Mordor. Prenant place sur un gigantesque terrain, on a facilement pu installer notre campement loin du champ de bataille. La traversée sans ombre et sous le soleil cuisant n'était guère simple et à la portée du premier venu. Sur place, je fus la rencontre d'un des organisateurs.
Alors salut, je m'appelle Willy, je suis dans l'organisation du festival cette année, pour l'édition 2023 donc, et je m'occupe également avec... mon ami Cyriel, de l'accueil des artistes sur le festival.
Ça fait combien de temps que tu fais partie de l'association ?
Eh bien, je suis rentré cette année, en fait.
Tout au long de l'année, elle fait quoi d'autre de plus que ce festival ?
On organise en dehors du Mordor Fest des petits concerts, notamment aussi en Lozère à Marvejols, oui, au Blémar, chez Marion et Nadine, et dans divers lieux. Tout au long de l'année, bon, c'est au nombre de 5-6 organisations de concerts, quoi, en plus du festival d'été.
Ça fait combien d'éditions, hein ?
C'est la 5e édition.
C'est la troisième édition ici sur l'Aubrac ?
Troisième édition ici sur l'Aubrac, oui.
Toi, du coup, tu es chargé des artistes. C'est toi aussi qui as été chargé de la programmation, de trouver les artistes à droite à gauche ?
Oui, tout à fait. Je fais partie de l'équipe qui organise le festival et notamment donc le choix des artistes. Ouais.
Et du coup, cette année, il y a eu un désir précis de certains artistes. Quel est votre choix ? Comment faites votre choix d'artiste ?
Alors, le Mordor Fest, c'est avant tout quand même un festival rock. Et donc, tous les sous-genres hein, qui en découlent, à savoir le noise rock, le post-rock, le hardcore, le metal, le post-hardcore, l'électro aussi. Cette année, on a introduit pas mal de musique dite électronique, entre guillemets, quoi. Mais qui sont quand même toujours à tendance rock, quoi. Ouais.
T'as des coups de cœur, toi, dans la programmation de cette année ?
Ben, disons que j'en ai énormément de coups de cœur, puisque, oui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, je fais vraiment... on a choisi les groupes, quoi, en fait. Et donc, j'en ai proposé pas mal. Et puis, du coup, on arrive à avoir des accords et puis à se décider pour choisir donc les 20 groupes qui constituent l'édition 2023. En sachant qu'on a eu peut-être plus de 200 demandes, quoi. Donc ça fait beaucoup de dossiers à gérer, beaucoup de messages reçus par les groupes qui veulent venir jouer ici. Et on est obligé de vraiment sélectionner, même ultra sélectionner, quoi. Donc oui, effectivement, on arrive à avoir des choix précis sur des groupes qu'on tient vraiment à avoir sur notre festival.
Et toi, du coup, tes coups de cœur personnels, si tu devais choisir 5 groupes du festival, là.
Si je devais choisir 5 groupes du festival, je dirais Ogino, qui est un trio de Clermont-Ferrand. Il y a un groupe qui vient du Danemark qui s'appelle Vilvler, qui va jouer ce soir d'ailleurs, qui est un super groupe qu'on avait fait déjà jouer sur un petit concert dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on aura d'autre ? On a Tombouctou, qui est un groupe de noise rock lyonnais, un trio, qui joue ce soir aussi, qui boucle le festival. Encore deux, qu'est-ce que je pourrais dire ? KG, Rémi, qu'on connaît bien puisqu'il est sur le circuit depuis un certain nombre d'années et ça faisait un petit moment qu'on voulait l'avoir ici, donc ce soir il va jouer aux alentours de 18h avec un concept plus que particulier qui va, à mon avis, ravir l'ensemble des festivaliers.
C'est le remplacement
Il fait le remplacement d'une annulation, oui, tout à fait. Et donc on a tout de suite pensé à lui, parce que bon, on n'avait pas vraiment l'information qu'il était dispo, puis finalement on l'a eu un peu sur le tard, et bon, on regrettait vraiment de ne pas l'avoir, et puis finalement il y a eu cette annulation, et puis les choses se sont bien tombées. Et puis un cinquième groupe qui pour moi serait Damarea, qui à mon avis va être peut-être le moment fort du festival. C'est un duo constitué d'un catalan au clavier et puis d'une chanteuse clavier aussi italienne. Et voilà, c'est un groupe qui s'appelle Damarea, et ils vont être ce soir aux alentours de 23h, et ça va être, je pense, le temps fort du festival.
Du coup, la musique, là, c'est de 15h à 4h du matin, 5h du matin ?
C'est ça.
Ouais, par là.
C'est ça, aujourd'hui, oui.
Ouais. Aujourd'hui, c'était ça.
Et du coup, le reste de la journée, qu'est-ce qui est organisé par le festival ? Est-ce qu'il y a d'autres activités ?
Mais oui, on fait un petit, ce qu'on appelle le off, où il y a des divers jeux. Tout à l'heure, on a eu un blind test avec notre ami Mike de le Discopathie qui se trouve à Marvejol. Et donc lui, il a organisé un blind test cet après-midi, ça a très très bien marché sous le chapiteau, sous le bar chapiteau. C'est très chouette. Il y avait énormément de participants. C'est vraiment une bonne petite surprise. Et puis il y a des food trucks ici, si on veut manger sur place, il y a largement moyen de le faire. Il y a un atelier de sérigraphie, si on veut faire des t-shirts avec l'effigie de l'affiche du Mordorfest cette année. Et puis diverses autres choses, des stands de merchandising, des disquaires, etc. Il y a pas mal de choses à faire sur le festival. Et cette année, par rapport aux autres éditions, on avait proposé un service de petit-déj dès 10h le matin, puisque c'est la première année où on ouvre aussi tôt le samedi, quoi. Ouais.
Ouais, du coup, c'est quoi les gros changements de cette année, à part du coup le petit-déj par rapport aux autres années? Il y a eu des gros changements, des évolutions?
Il n'y a pas vraiment eu de révolution. On peut dire qu'il y a eu un changement du bureau, donc avec des nouvelles personnes, des anciennes qui sont restées, et puis donc du coup, on est reparti sur de nouvelles bases, mais en même temps, en gardant quand même la plupart des anciennes, quoi, parce que bon, il y avait quand même quelque chose qui avait été mis en place par l'ancienne équipe qui avait très très bien fonctionné. Et donc on est reparti sur ces bases-là, et puis ouais, on a pu constater hier qu'il y avait énormément de monde qui s'est déplacé, et on s'en réjouit.
Du coup, le festival, il était à Chamballon avant, maintenant du coup il est sur l'Aubrac. Est-ce qu'il y a un désir d'évolution encore supérieur à ça, ou pour l'instant il y a encore assez de place, c'est assez grand ici pour contenir encore un bon bout de temps?
Eh bien, nous, on a la volonté de rester ici le plus longtemps possible, déjà parce que le site est quand même exceptionnel. On est sur le terrain attenant à la cascade du Déroc, donc c'est un lieu absolument magique, quoi. Et donc ce terrain appartient à Monsieur Camille Sauvage, qui nous laisse ce terrain depuis donc 3 ans, une personne avec laquelle on s'entend très bien et qui fait partie aussi de notre équipe maintenant. Et je remercie aussi sa maman, Dominique, qui est une dame extraordinaire, qui participe aussi à l'élaboration de ce festival en nous prêtant des pioles pour les groupes, de manière à ce qu'ils puissent aller se loger, etc. Et c'est vraiment... Camille et sa maman Dom sont des gens exceptionnels, mais je peux le dire, quoi, ouais, vraiment. Et ils s'intéressent toujours à tout, ils sont très motivés pour que le Mordorfest perdure sur ce lieu, en tout cas.
Le Mordorfest, à une époque, c'était aussi sur 3 jours. Aujourd'hui, c'est sur 2 jours. Est-ce que je ne sais pas si c'est un désir de rester sur plus court?
Ben, ça, on verra. Donc, pour le moment, ce n'est pas vraiment d'actualité. 2 jours, c'est déjà... Ça demande énormément d'organisation en amont. Ça fait plusieurs mois qu'on est sur l'organisation du festival. On est tous les jours dessus. On est une équipe qui est aussi entre 8 et 10 personnes. Et déjà, 2 jours de festival, ça nous prend énormément de temps à organiser. Donc, en faire 3, là, tout de suite, je vois pas comment ça pourrait être possible, mais pourquoi pas. On ne sait pas trop ce qui peut arriver pour l'année prochaine. On va voir un petit peu comment on boucle cette session. Et après, on réfléchira à la suite. Ouais.
Tu disais du coup, vous êtes une grande et nouvelle équipe aussi au Mordor. Il y a des, du coup plein de nouvelles idées. Est-ce qu'il y a déjà des trucs en préparation pour l'an prochain, des nouveaux trucs qui vont arriver ou...
Non, on n'a pas encore réfléchi à tout ça en fait. Là, on est vraiment plongé en fond de celui-là. On est donc le deuxième jour après-midi comme ça. Et il faut vraiment qu'on puisse terminer cette session, tirer les bilans et puis voir après comment on va opérer pour l'année prochaine.
Une idée du nombre de personnes qu'il y a jusqu'à maintenant ?
Je pense que hier soir, on a eu 800 passes qui ont été vendues. Et on en espère au moins autant aujourd'hui, parce qu'on sait toujours que le samedi, c'est quand même un jour qui fonctionne le mieux sur le week-end. Donc ouais, on va dire que si on arrive à atteindre 1000 personnes aujourd'hui, ça sera très très bien pour nous.
Et niveau orga, vous êtes combien de bénévoles ?
Alors, on est 120 bénévoles cette année. Donc on est ici depuis une semaine, donc les arrivées se sont faites au fur et à mesure. On a commencé avec un petit groupe et puis le groupe a petit à petit s'est constitué et, pour arriver aujourd'hui au nombre de 120. Donc franchement c'est plus que nécessaire parce qu'il y a quand même énormément de choses à gérer, monter les chapiteaux, organiser une cuisine. Là aujourd'hui par exemple en cuisine, il faut qu'on fasse manger à peu près 200 à 230 personnes. Quoi. Donc bon, il faut quand même qu'il y ait... Tout ça se prépare en amont, on n'imagine pas, mais c'est un travail d'arrache-pied. Quoi. Et pour tout le reste c'est pareil, quoi. Le montage des barnums, le choix des groupes, les recevoir, pouvoir les driver sur le lieu où ils vont dormir, il y en a qui veulent rester au camping, etc. Bon, ça demande une organisation vraiment très importante, la billetterie, le merchandising, et puis plus tous les intervenants, les disquaires, etc. Il faut quand même pouvoir les placer, leur mettre des barnums en place de manière à ce qu'ils soient à l'aise, pas en pleine soirée, tout ça, c'est une très très grosse organisation.
Et du coup, c'est suffisant le nombre de bénévoles ou il faudra un peu plus ?
Non, là, je crois que... Pour un festival de cette envergure, 120 bénévoles, on est pas mal du tout là. Franchement, l'année dernière, on avait beaucoup moins. Et ça avait été, on y était arrivé, mais ça c'était quand même bien passé. Mais là, je pense que c'est une bonne jauge, là, 120 personnes qui donnent tout leur temps pendant plusieurs jours comme ça. C'est vraiment très très chouette. Et on les remercie d'être là et de participer à tout ça.
Là, c'est Ogino qui vient de commencer, je crois, c'est ça ?
Non, c'est pas Ogino qui vient de commencer, c'est Mistress Bomb H, qui est une artiste rennaise, qui est un solo un peu post-punk. Comme ça.
Bon, bah, je vais aller découvrir ça. Bah, je te remercie du coup pour cet échange et peut-être à plus tard.
Eh bien, écoute, merci à toi, on se croisera très probablement dans la journée. Merci.
Effectivement, l'affreuse chaleur de cette terre avait réussi à détraquer ma mémoire. C'était bien Mistress Bomb H qui avait pris place sous le chapiteau à 14h. La bataille du jour avait commencé. Elle vient des lointaines contrées de Rennes et le chemin qu'elle avait fait pour en venir prouvait toute la motivation qu'elle avait pour faire couler le premier sang. Venant de Florac, nos locaux Raskanin ont suivi le mouvement à 16h pour enflammer toujours plus les scènes. Ils sont venus défendre leur territoire et montrer de quoi ils étaient capables. On l'a vu un peu partout sur les terres de la Lozère cet été. Que ce soit avec son groupe Unspeakable ou en solo, Gomme Pilote a répondu présent avec son gender fluide industrial pop metal à 17h. être venu tant en avant sur le territoire prouver sa détermination à se préparer pour cette grande bataille. S'y attendait le moins, on se retourne et on voit un homme en pantalon latex et en veste en cuir debout sur une carriole en ferraille devant la buvette. Il possède un synthé et une machine lui faisant voler les cheveux au vent. C'est Keiji, il nous vient de l'Allemagne avec sa Synthwave solo. C'était sûrement un magicien venu de loin pour motiver les troupes. Ce qui est sûr, c'est qu'il a réussi à réunir un grand nombre de partisans tout autour de lui. À ce moment-là, le soleil qui nous cuisait petit à petit commençait à décliner. C'était l'heure du grand buffet et chacun se dirigeait vers un stand différent pour se repaître. La bataille avait à peine commencé et chacun devait reprendre des forces car très vite, c'est Ogino qui est arrivé. Il était 19h40 et l'arrivée de ces trois musiciens venus de Clermont-Ferrand n'était pas anodine. Ils avaient en effet arrêté leurs activités des années auparavant et ont fait leur réapparition pour reprendre du service dans cette bataille avec leur instrumental Mats Rock. À 20h30 est arrivé Exfulgur et son No Wave Post-Punk. Cet étranger venu des lointaines contrées de Rennes m'a servi d'excuse pour prendre discrètement la fuite et retourner au campement afin de trouver un peu de repos avant la bataille finale. J'ai donc repris les plaines du Mordor et remarqué que la nuit tombait. Il faisait aussi froid la nuit qu'il faisait chaud en journée. C'était l'occasion ou jamais de récupérer des affaires chaudes. Et il est vrai que j'ai flâné sur le camping une bonne heure et demie. Dans ce laps de temps, on entendait de loin, mais très bien, Fleuve Noir avec leur transe psyché rock, suivi par Chavalan, et leur galop-corps qui pouvait rappeler à certains le son des chevaux du Rohan qui arrivait au galop pour la prochaine bataille. La motivation retrouvée, je me sentais prêt à retourner à la bataille, pour voir l'arrivée de Damaria, à l'heure où la nuit était la plus haute, et elle nous venait de Barcelone avec son électro synthwave. Armée de baguettes, de percussions et de son micro, elle a su secouer la foule, et sa détermination contagieuse m'a fait apprécier un style dont je ne suis pas forcément un grand fan. elle était suivie par Fury à 1h du matin, du Mats Rock post-hardcore en provenance de Pau, lieu de naissance de Henri IV, roi de France et de Navarre. S'ils étaient là, c'était certainement pour prouver que leur cité était loin d'être dépassée et qu'ils avaient encore de l'énergie à revendre. Doucement, mon corps me faisait comprendre que je n'étais moi-même pas prêt pour en finir en beauté avec cette grande bataille. Et je faiblissais à l'arrivée de Tvivler, qui se réclamait du post-punk danois classieux et intelligent. Ces guerriers venus de Copenhague ont eu raison de moi. Je n'ai donc pu assister à la clôture de ce festival. C'est Tombouctou qui nous venait de Lyon avec du noise rock qui s'en chargeait. Pour me rassurer, je me suis convaincu que seuls les plus grands sonophages avaient la force et le courage d'affronter cette dernière bataille.